Bonjour à toutes et à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui c'est Mabo Day, une journée nationale célébrée depuis 30 ans en Australie, qui tombe donc le 3 juin. Mabo, ça fait référence à une décision de justice très importante, tellement importante d'ailleurs que c'est devenu une journée nationale justement, mais surtout elle fait référence à un homme, Eddie Mabo, qui avait, il y a donc maintenant plus d'une trentaine d'années, déposé un recours en justice pour faire reconnaître ses droits de propriété sur une partie du territoire australien. On va donc revenir sur cette histoire qui est vraiment structurante dans l'histoire politique australienne et celle des aborigènes en particulier, en tout cas des communautés indigènes. Et comme souvent quand on revient sur le passé de l'Australie, on est aujourd'hui avec Romain Fatty, historien à l'université Flinders d'Adélaïde. Bonjour Romain Fatty.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors on va peut-être commencer par ce monsieur, Eddie Mabo. Qui était-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, son parcours
Alors, Eddie Mabo est un aborigène australien qui a la particularité d'être de la région des Torres Strait Islands. Donc, ces îles qui sont situées entre l'Australie continentale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est un aborigène australien de cette zone qui s'est battu pendant très longtemps pour la reconnaissance de ses terres ancestrales. Et au début de son combat, il s'est battu contre l'État du Queensland, donc dans les années 70 et 80, qui était un État notoirement corrompu à l'époque. Et au moment où il allait gagner au niveau étatique, le premier ministre de l'État du Queensland à l'époque est intervenu, et Mabo s'est fait débouter. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté à la cour de l'État, puisqu'il a déposé un recours auprès de la cour fédérale, la High Court de l'Australie, qui a lancé une enquête pour savoir si effectivement M. Mabo avait des droits qui auraient subsisté à la colonisation sur ces terres. Et il a réussi à prouver qu'il en avait. Et alors là, si vous me permettez, il faut un petit détour historique pour bien comprendre ce qui se passe. Dans l'entreprise de colonisation mondiale qu'ont menée les puissances européennes, vous pouviez, si vous étiez un royaume, déclarer qu'une terre vous appartenait si elle était inhabitée. Alors ça se base vraiment sur des points de droit et même d'histoire religieuse médiévale où voilà, vous pouviez saisir une terre si elle n'était pas possédée. Donc, a priori, quand la France ou la Grande-Bretagne explorent l'Australie, ils savent très bien que cette terre est habitée puisqu'ils décrivent les aborigènes australiens par des textes, par les lettres qu'ils envoient et surtout par les dessins qu'ils font. Donc, on sait très bien que les aborigènes sont là. Simplement, il faut la fiction légale pour pouvoir coloniser. Et donc, la Grande-Bretagne déclare l'Australie « terra nullius », une terre sans maître, une terre vide. Donc, c'est une fiction légale qui permet à la colonisation d'avancer. Cette colonisation, on la connaît, elle avance à marche forcée. Les Britanniques déportent des condamnés, puis après, des hommes libres pour coloniser et par la même prendre la terre des aborigènes. Ces derniers résistent. En Tasmanie, les historiens sont d'accord pour parler de génocide. Tout au long du territoire australien, vous avez des massacres et la terre est prise. Et pendant des dizaines d'années, les aborigènes disent « Mais attendez, c'est à nous, c'est chez nous, nous étions là avant, cette terre nous appartient. » Or, dans le système légal australien, jusqu'au cas Mabo en 1992, les aborigènes n'ont pas de droit sur leur terre. Et donc, le cas Mabo de 1992 est une révolution en Australie parce qu'elle reconnaît que cette terre appartenait avant la colonisation aux aborigènes.
C'est cette décision de justice qui abolit le concept de terra nullius qui ouvre la voie au système de rétrocession des terres, ce qu'on appelle en anglais les native titles, les land rights, etc., qui permettent à certaines communautés aborigènes, dans des conditions bien particulières, de revendiquer la propriété d'une partie du territoire australien.
Absolument. Et alors, on va revenir à Mabo, parce que ça, c'est vraiment important. Mabo n'est pas sur le territoire continental australien, comme je vous l'ai dit. Il vient des îles du détroit de Torres. Et dans ces îles, il y avait un certain concept de propriété privée. C'est-à-dire qu'un aborigène d'Australie continentale, vous avez une relation à la terre qui est totalement différente. Les aborigènes ne possèdent pas la terre, ils en font partie. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez une organisation de vie communale, avec des territoires, mais sans réelles frontières et sans propriété privée, comment vous allez pouvoir prouver que ça vous appartient dans un système légal anglo-saxon où la notion de propriété est totalement reine. Donc, si vous ne pouvez pas dire « oui, ça m'appartient parce que j'ai des documents, parce que voici une frontière avec mon voisin très précise », vous ne pouvez pas obtenir de vous faire entendre par les cours australiennes. L'intelligence de Mabo et des groupes qui l'ont soutenu, c'est d'avoir sélectionné des îles très précises, et qui dit île dit territoire forcément beaucoup plus restreint dans le détroit de Torres, et de dire, voyez, regardez, je vais vous emmener, messieurs les juges de la Cour suprême, et je vais vous montrer quelles étaient les délimitations de terrain, et je vais vous montrer des objets physiques, des pierres, des arbres qui séparent ces parcelles. Et à partir du moment où il y a l'idée de propriété privée, il peut y avoir l'idée de privation de cette propriété par la colonisation. Et donc, ce que Mabo arrive à prouver, autorise à mettre en place un système, celui que vous avez mentionné, les Native Titles, qui stipule que si les aborigènes arrivent à démontrer qu'il y a une continuité dans leur utilisation de telle ou telle terre, alors, si cette terre n'est pas propriété privée d'un Australien, mais si cette terre est la propriété de l'État ou du Commonwealth, dans ces cas-là, il y aura peut-être des mécanismes pour pouvoir voir que cette terre soit réattribuée aux communautés aborigènes. Mais c'est extrêmement compliqué, d'une part, et ce sont des cas assez limités. Et par ailleurs, quand vous êtes une civilisation de l'oral, comment arrivez-vous à prouver une utilisation ininterrompue de vos terres ancestrales? Donc, le système qui a été mis en place permet la reconnaissance des terres aborigènes, mais de façon très, très, très limitée tout de même.
Un mot peut-être sur le juge qui a rendu cette décision, Sir Gerard Brennan. Il se trouve qu'il est décédé hier, mercredi, à l'âge de 94 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du magistrat qui a rendu cette décision et du contexte dans lequel il l'a rendu?
Alors, c'est une très bonne question, et effectivement, Sir Gerard Brennan, bon, déjà, de mémoire, je crois que c'était un catholique convaincu, et surtout quelqu'un qui avait à cœur la notion des droits de l'homme. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il opère dans un contexte où tout le monde sait bien que Terra Nullius est une fiction. À l'époque, on vient de fêter le bicentenaire de la colonisation en 1988, puisque l'arrivée de la première flotte, c'est en 1788. Tout le monde sait qu'évidemment, avant la première flotte, il y avait des aborigènes et qu'à partir de ce moment-là, la terre leur a été volée. Donc, il arrive dans un contexte où on est sous un gouvernement travailliste, celui de Bob Hawke. Et Bob Hawke, à l'époque, promet aux aborigènes, chose qu'il n'a pas réalisée, d'arriver à un traité pour 1990. Donc, Brennan, il opère dans ce contexte assez progressif d'un gouvernement travailliste, dont il est complètement dépendant, puisqu'il est juge à la Cour suprême australienne. Il est dans un contexte où la population australienne soutient un changement. Et donc, il a ce mandat, entre guillemets, populaire d'autoriser un changement à la fiction légale sur laquelle tout le système de propriété australien est fondé. Donc, il arrive dans un moment où non seulement le gouvernement fédéral, mais aussi la population australienne est ouverte à se poser la question de savoir, bon, nous sommes ici pour rester, comment pouvons-nous travailler avec les aborigènes pour reconnaître qu'effectivement, cette terre leur appartient? Et c'est ce qu'il arrive à faire de façon révolutionnaire, mais dans un cadre légal qui doit être réécrit. Et c'est là où on retrouve une opposition avec les libéraux qui vont dire « Oh là 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 là, attendez, c'est très bien de reconnaître que les aborigènes étaient là avant, mais on va pas pouvoir leur redonner toutes leurs terres. » Et donc, après le gouvernement Hawke, vous avez le gouvernement Keating qui continue à légiférer justement sur les Native Titles en 93, puis en 96. Et après arrive John Howard en 96, un libéral, qui là met le holà, entre guillemets, sur ce retour aux terres et impose des conditions beaucoup plus strictes de sorte à ce que les aborigènes ne puissent pas demander le retour de terre pastorale, par exemple, agriculture, parce que vous avez des enjeux économiques majeurs sur les mines et sur l'agriculture, et bien sûr, les fermiers très, très riches et très puissants des terres australiennes s'opposent complètement à un retour aux terres aborigènes. Donc vous avez ce mouvement de balancier, et Brennan arrive au bon moment.
Alors on va accélérer un petit peu dans le temps pour arriver au 21 mai dernier, élection d'un nouveau gouvernement travailliste. Anthony Albanese, dès sa première prise de parole et quasiment au tout début de son discours, a fait référence aux aborigènes, aux insulaires du détroit de Torres et à son souhait notamment de mettre en œuvre et de concrétiser les propositions faites dans la déclaration d'Uluru et de manière générale d'améliorer autant que possible le sort des aborigènes d'Australie qui, on le sait malheureusement, vivent dans des conditions infiniment pires que le reste de la population. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Est-ce que c'est cette envie d'améliorer les choses, elle est sincère ? Est-ce que c'est juste pour faire joli, montrer qu'on est différent du gouvernement libéral qui était en place depuis 9 ans ? Enfin, qu'attendre de ce gouvernement pour la question aborigène ?
Alors, ces déclarations, elles sont à la fois sincères et extrêmement politiques. Par politique, j'entends qu'aujourd'hui, la grande majorité des Australiens soutient une idée de traité ou de reconnaissance ou de pacte avec les aborigènes. Donc, si vous voulez, du point de vue politique, c'est très intéressant parce que il y a plus de débat. Sauf chez les ultra-libéraux conservateurs que nous avions au pouvoir il y a encore quelques semaines, qui, on s'en est bien rendu compte, représentent une minorité des Australiens. Ceux-là sont arc-boutés contre toute reconnaissance supplémentaire des aborigènes. Mais quand on regarde les sondages, une grande partie des Australiens, même les libéraux modérés, soutiennent un type de traité ou de reconnaissance plus formelle qui pourrait s'inscrire peut-être au Parlement. Donc, si vous voulez, du point de vue du gouvernement Albanese, il a tout intérêt à s'inscrire dans l'histoire. Par ailleurs, il est porteur d'une tradition de ce côté-là. On a parlé des Native Titles, on a parlé de Mabo. Tout ça, c'est le gouvernement travailliste de Bob Hawke, puis le gouvernement travailliste de Paul Keating. On se souvient de l'excuse officielle donnée par le gouvernement encore travailliste de Kevin Rudd pour reconnaître les générations d'aborigènes volées à leurs parents. Et donc, Albanese s'inscrit dans cette tradition travailliste de reconnaissance et surtout d'avancées culturelles qui suivent, plutôt qu'elles n'anticipent, la volonté et la perception du peuple australien en entier. Donc, il arrive à un bon moment. Et pourquoi ? Parce que en 2017, vous avez eu des conventions d'aborigènes dans tout le pays, dans toute l'Australie, qui aboutit sur ce qui s'appelle le Uluru Statement from the Heart, la déclaration du cœur d'Uluru, si vous voulez. Et cette déclaration, si vous voulez, qui est le fruit d'une convention nationale des aborigènes, demande plusieurs choses. Elle demande une voix au Parlement pour les aborigènes, une voix consultative plutôt qu'exécutive ou législative.
Ouais, juste un point rapide sur ça, donc voix VOIX. L'idée, ce serait de créer donc à Canberra une institution représentative des différentes communautés aborigènes et qui aurait un droit de regard, en tout cas le droit de donner leur avis sur toutes les législations concernant de près ou de loin les populations indigènes australiennes, c'est ça hein.
Voilà, c'est-à-dire que il n'y aura pas de remise en question du système parlementaire australien. Si vous êtes élu, vous avez voix au chapitre, vous vous retrouvez au Parlement et le Parlement a le pouvoir législatif. En revanche, ce qui serait proposé avec le Uluru Statement from the Heart, c'est d'avoir un corps ou une formation qui se prononcerait au moment des votes ou de la législation en disant sur tel sujet, voilà ce que pensent les communautés aborigènes, puisqu'évidemment, quand on dit les aborigènes, il s'agit de centaines de peuples différents avec des langues aussi différentes. Et donc, ce n'est pas un pouvoir exécutif, ce n'est pas un pouvoir décisionnaire, ce n'est pas un pouvoir législatif, ce serait un pouvoir consultatif. Et l'idée pour eux est que, en intégrant la voix des aborigènes, les lois ne seront plus faites pour les aborigènes, mais en consultation avec eux. Donc voilà, il ne s'agit pas d'un changement révolutionnaire, les aborigènes ne vont pas être au Parlement avec un droit de veto sur le système parlementaire australien, non, pas du tout. Encore une fois, ce sont des progrès, on pourrait dire, à minima, mais ce sont des progrès importants. Pourquoi ? Parce que ça fait des décennies que les aborigènes australiens disent « Mais nous n'avons pas de traité, cette terre nous a été volée et encore aujourd'hui, en 2022, ceci n'est pas reconnue.
Romain Fathy, l'une des autres revendications très fortes de la communauté aborigène, en tout cas exprimée dans cette déclaration d'Uluru du fond du cœur, c'est l'institution d'un traité. Ça existe dans plusieurs autres anciennes colonies, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Afrique du Sud, je crois également. Il n'y en a pas en Australie. Concrètement, c'est quoi ce traité entre un gouvernement et les populations indigènes d'un pays, et pourquoi en Australie on en demande un et on pense que c'est essentiel?
Alors, il y a deux volets. Il n'y a pas de traité en Australie. Pourquoi? Parce que l'Australie a été colonisée à marche forcée et les aborigènes n'ont pas pu s'unir d'une façon qui aurait permis de s'opposer militairement à la colonisation, telle qu'on l'a vu dans d'autres espaces colonisés, comme la Nouvelle-Zélande ou le Canada, vous l'avez rappelé. Et donc, les Maoris, par exemple, ont pu se battre. Et à partir du moment où vous avez un peuple qui se bat contre vous, bon, vous cherchez à établir un traité pour pouvoir continuer à coloniser sans que vos citoyens soient tués ou qu'il y ait des engagements militaires. Et le grand malheur de la colonisation en Australie pour les aborigènes, c'est que les maladies, les massacres, les conquêtes militaires se sont faites d'une façon où leur résistance c'était le pot de fer contre le pot de terre, très clairement. Et donc, depuis très très longtemps, vraiment tout au long du XXe siècle, les représentants aborigènes ont demandé à ce qu'il y ait un traité pour dire, voilà, cette terre était à nous avant et aujourd'hui nous reconnaissons tel et tel paramètre pour pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, le Statement from the Heart demande ce qu'ils appellent un Makarata. Makarata, c'est un synonyme pour le mot traité, mais ceci, c'est plutôt un processus qu'un traité, c'est-à-dire l'idée de dire la vérité et de proposer des moyens d'aller ensemble en avant. Donc, encore une fois, ce sont des petits progrès, mais ce sont des progrès très importants, parce que ça permet aux aborigènes de dire, voilà, on reconnaît le passé, on reconnaît ce qui a été, les violences qui ont été faites à tous les peuples aborigènes, mais en même temps, on ne vous demande pas de retourner en Grande-Bretagne et de partir de l'Australie. On va proposer un modèle dans lequel on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est exactement ce que fait le Uluru Statement from the Heart, et c'est pour ça que le gouvernement albanisi le soutient. Comme vous l'avez rappelé, le Premier ministre a dit « Nous allons mettre en œuvre toutes les demandes du Uluru Statement from the Heart ». Alors, ça va bien évidemment prendre des années. Il y aura probablement un référendum qui sera nécessaire, parce qu'il s'agit quand même de changements très importants. Mais ce qui a été refusé depuis 2017 par les gouvernements libéraux devient maintenant totalement accepté et vraiment à l'ordre du jour pour le gouvernement travailliste, qui peut compter vraiment sur un soutien populaire sur ces questions-là.
D'accord, donc si je comprends bien, ces avancées, elles vont prendre encore un petit peu de temps, mais au moins, elles ont le mérite d'être mises sur la table et de faire l'objet de véritables discussions.
Totalement.
Merci beaucoup Romain Fathy pour vos lumières, comme d'habitude, et à très bientôt sur notre antenne.
À très bientôt, je vous remercie.